L'évangile d'aujourd'hui poursuit et complète celui de dimanche dernier. Nous sommes toujours dans la synagogue de Nazareth et dimanche dernier, nous entendions Jésus qui lisait le prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération. Il avait refermé le livre et il avait dit, et c'est le début d'ailleurs de l'évangile de ce jour, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Nous sommes au tout début de l'Évangile de Saint-Luc et vous savez peut-être que chez Saint-Luc, il y a étonnamment 12 aujourd'hui. Je pense que le chiffre 12 n'est pas anodin. Mais chez Saint-Luc, l'aujourd'hui de Dieu revient comme un leitmotiv. Nous l'avons entendu d'ailleurs dans la nuit de Noël. Aujourd'hui, vous aidez un sauveur. Ça veut dire quoi? Que Jésus n'est pas simplement né il y a 2000 ans dans un petit village de Bethléem, mais qu'aujourd'hui, il veut naître dans notre cœur. Au chapitre 3 de l'évangile de Saint-Luc, il y a le baptême de Jésus. Et nous entendons la voix du Père, « Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes appelés, nous aussi, aujourd'hui, à vivre de notre baptême. Et je vous le dis souvent, il ne faut pas dire « j'ai été baptisé à telle date », mais « je suis baptisé depuis telle date ». C'est chez Saint-Luc aussi que nous voyons l'épisode de Zachée. « Aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Jésus ne veut pas demeurer chez nous demain, ou quand on prendra de bonnes résolutions, mais dès maintenant, aujourd'hui, ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et puis, c'est aussi chez Saint-Luc qu'il y a l'épisode du bon larron. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Car Jésus veut nous libérer. Je suis venu pour libérer les captifs. Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et aujourd'hui, en ce dimanche, nous entendons un aujourd'hui s'accomplit cette parole de l'Écriture. Alors méditons un petit peu sur cet aujourd'hui, cette parole de Dieu qui est vivante. En fait, ce n'est pas évident de croire que chaque dimanche, chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, Dieu veut nous parler aujourd'hui. Et que cette parole n'est pas simplement une parole qui a été écrite il y a 2000 ans, voire 3000 ans, mais que cette parole nous parle encore aujourd'hui. Il y a deux réactions possibles. La première, c'est l'accueil de cette parole. Et nous l'avons entendu. Une fois que Jésus a dit « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre », l'évangéliste poursuit « Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils écoutent avec beaucoup d'attention ce que Jésus leur dit. » Ils sont étonnés de ce qui sort de la bouche du Seigneur. Et c'est peut-être pour ça qu'ils accueillent vraiment sa parole comme une parole venant du Père, venant de Dieu. Cela fait penser aussi au psaume 44. Vous savez, quand on parle de ce Messie et on dit, et cela annonce déjà Jésus, « Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Oui, Dieu te bénit pour toujours. » En hébreu, il faudrait traduire « La grâce déborde de tes lèvres. » Et donc, les habitants de Nazareth, quand ils entendent Jésus là dans la synagogue, s'étonnent des paroles de grâce qui sortent de sa bouche. Est-ce que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes nous aussi étonnés par cette parole qui peut-être nous bouscule? Accueillir cette parole aujourd'hui. Mais nous voyons tout de suite, quelques instants après, que certains vont rejeter cette parole. Certains se disent, mais celui qui nous parle n'est-il pas le fils de Joseph? En fait, ils ont l'impression de tout connaître de Jésus. Ils ne s'étonnent plus, ils ne s'émerveillent plus, ils manquent d'humilité. Et donc, ils n'accueillent pas Jésus comme le sauveur. Ils se disent, mais c'est quelqu'un là, un petit là, du village. Il a vécu au milieu de nous. Ça ne peut pas être le fils de Dieu. Nous le connaissons trop. Il ne s'étonne plus. Et quand on s'habitue trop à la parole, on ne se laisse plus, comment dire, bouger par elle, voilà, transformé par elle. Dans le prologue, dans son prologue, Saint Jean disait « Il est venu chez les siens et les siens n'ont pas accueilli. » Jésus avait fait des miracles ailleurs en Galilée, à Capharnaüm notamment. D'ailleurs, il le dit dans le texte d'Évangile. Mais en revanche, eh bien, il ne peut pas en faire ici à Nazareth. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays, dit-il. Et pourquoi alors il n'est pas toujours facile de reconnaître une parole de Dieu à travers une parole humaine? Cela demande vraiment un acte de foi. Oui, chaque fois que nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu, nous devons nous dire que ce ne sont pas d'abord des auteurs humains qui ont écrit ces textes que nous lisons dimanche après dimanche, à savoir les prophètes, par exemple, Isaïe, Abdias, tel ou tel auteur sacré, mais nous croyons, comme l'ancien de Concile Vatican II, que c'est l'Esprit Saint lui-même qui a inspiré ces auteurs et qui est le premier rédacteur de la parole de Dieu. Pour nous dire que cette parole que nous entendons s'accomplit aujourd'hui, nous devons d'abord faire cet acte de foi. Cet acte de foi en la parole de Dieu. Et une deuxième étape dans l'attitude de foi par rapport à la parole de Dieu, et de nous dire qu'il nous faut aussi, et ça fait partie de l'action liturgique, recevoir l'homélie du dimanche, qui est un commentaire de cette parole de Dieu. Un commentaire pour nous tous qui sommes ici rassemblés. La parole de Dieu n'est pas simplement pour moi, comme pourraient le penser nos frères protestants, pour qui c'est la sola scriptura et mon interprétation personnelle, mais nous sommes invités à interpréter ensemble la parole de Dieu et à accueillir cette interprétation ensemble. En dehors de la messe, il est possible, je sais que vous le faites, de faire des partages bibliques. Faisons-le. Et il y a des laïcs parmi vous qui sont plus compétents pour expliquer tel ou tel aspect de la parole de Dieu que des prêtres ou des diacres. Il n'empêche que dans l'acte liturgique, il revient au diacre ou au prêtre qui a été consacré, qui a été mis à part, de nous aider à entrer dans cette parole de Dieu. Malgré les limites du prédicateur, malgré les limites de ses qualités, malgré ses limites humaines. Alors voilà, nous sommes invités à faire cet acte de foi et croire que Dieu, aujourd'hui, veut nous parler à nous qui sommes rassemblés comme peuple pour nous mettre à son écoute et pour accueillir sa parole. Cela demande, bien sûr, une certaine pauvreté de notre part. « Je suis venu, disait Jésus, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Et si certains n'accueillent pas la parole de Dieu parmi les Nazaréens, c'est que justement, sans doute manquent-ils d'humilité. Ils croient tout connaître, tout savoir sur Jésus. Bien sûr, c'est le fils de Joseph, le fils du charpentier. Mais nous devons nous demander cette attitude de pauvreté pour nous mettre à l'écoute de cette parole. Le pauvre, c'est celui qui sait qu'il ne se suffit pas à lui-même. C'est celui qui sait qu'il a besoin des autres. C'est celui qui sait qu'il a besoin de Dieu. Et Jésus, justement, va nous donner deux exemples de pauvres qui ont écouté la parole de Dieu et qui ont eu leur vie transformée parce qu'ils se sont mis à l'écoute de la parole de Dieu. Mais c'est la veuve de Sarepta. Cette veuve qui, au temps du prophète Élie, comme on dit, alors qu'il y avait la famine, ce pays depuis longtemps, eh bien, va se mettre à l'écoute de Dieu à travers le prophète Élie. Et Élie va la sauver de la famine et va même guérir son fils unique. Parce qu'elle était pauvre et qu'elle a accueilli Dieu à travers le prophète Élie. D'ailleurs, c'était une païenne. Et puis, il y a aussi Naaman le Syrien, ce général syrien, qui avait entendu parler du prophète Élisée, qui faisait des miracles extraordinaires. Il était lépreux, on nous le dit là dans le livre des rois. Alors, bardé de cadeaux et de recommandations, il arrive en grande tenue devant le prophète Élisée. Et puis, il pense que le prophète va faire des choses extraordinaires, des signes extraordinaires, pour le libérer de sa lèpre. Et le prophète lui demande simplement, c'est Dieu à travers le prophète qui lui dit, « Va te laver cette fois dans le Jourdain. » Il ne le souhaite pas au début. Il dit, est-ce que là-bas, en Syrie, il n'y a pas des fleuves aussi qui sont aussi purs que le Jourdain? Et finalement, il accepte humblement de faire ce geste qui n'est pas grand-chose, mais il accepte d'obéir à Dieu à travers le prophète Élisée. Et lui aussi, son attitude est une attitude de pauvre. Et donc Dieu va pouvoir faire des merveilles dans son cœur. Voyez, en face de Dieu, il y a deux attitudes. Soit je le rejette, je crois tout savoir de lui. Soit je demande la grâce d'accueillir ce qu'il m'invite à faire, même si je ne comprends pas toujours là où il veut m'emmener. Et puis, il y a cette expression dans l'Évangile qui est devenue un peu proverbiale. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Nul n'est prophète en son pays, c'est vrai. Ce n'est pas toujours évident de vivre notre foi là où nous sommes, de vivre notre foi au quotidien, dans notre propre famille, dans nos lieux de travail. C'est parfois plus facile d'aller au loin pour annoncer l'Évangile, de parler à des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne fréquente pas au quotidien. Mais si Jésus n'est pas accueilli comme prophète chez lui, il nous invite cependant aujourd'hui à être prophète chez nous. Et nous savons que par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et nous sommes invités en premier lieu à être prophètes chez nous, là où nous sommes, au quotidien. Peut-être que la mission nous fait peur. Rappelons-nous que nous ne sommes jamais seuls et que nous sommes porteurs d'un message de libération. Je suis venu libérer les captifs, apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de l'amour que nous avons entendue. Je ne vais pas vous faire une deuxième homélie. Dans la deuxième lecture tirée du chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens. L'amour prend patience, l'amour rend service. Demandons la grâce de savoir patienter, d'encourager, de rendre service, d'ouvrir notre cœur au Seigneur pour transmettre autour de nous cette bonne nouvelle dont nous voulons vivre au quotidien et que nous voulons, oui, transmettre autour de nous. Oui, Seigneur, donne-nous en ce dimanche la grâce d'avoir un cœur de pauvre pour accueillir les paroles de grâce qui débordent de ta bouche, pour que ces paroles de grâce transforment non seulement chacune de nos vies, mais que à travers nous, parce que nous pouvons être missionnaires, d'autres puissent être touchés aussi par ton amour. Amen.